J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur.
Le naturisme.
Un accident !
Ça y est, à Tahiti, ça recommence.
Quoi ?
Qu'est-ce qui recommence ? Les encombrements ?
Non, non, les nudistes, tous à poil. Passez-moi l'expression, mon adjudant.
Il faut agir immédiatement.
Les nudistes, où sont-ils ?
Des nudistes ? Quelqu'un a vu des nudistes ici ?
Prenez vos désirs pour des réalités, gendarmes.
Richaud, Fougas, ici ! On les aura !
Ça y est, ça commence mal. Naturisme, nudisme, les mots sont à découvert, exposés à tous les vents de la confusion. En France, du moins, les naturistes, au départ, n'étaient pas nudistes. En revanche, les nudistes étaient naturistes au sens où ils s'imposaient le programme de transformation personnelle, voire sociale, qui va avec le naturisme. Le renforcement des défenses du corps, des exercices utiles dans un environnement d'eau, d'air et de soleil qui désérotise. Libre, le corps n'est plus soumis à des manifestations incontrôlables. C'est ce qui permet le nudisme. On vient d'entendre un extrait du gendarme de Saint-Tropez. Dans les années 1960, c'est souvent dans le Var qu'ont débuté les polémiques sur le nudisme. Le naturisme y existait pourtant depuis longtemps, très visiblement depuis les années 1930 à Héliopolis, sur l'île du Levant, au large d'Hyères. Et justement, les interrogations avaient commencé à naître dès lors qu'il y avait agrégation de naturistes nombreux sur un lieu de loisirs. Or, depuis l'après-guerre, c'est cette facette du mouvement qui l'emporte en France. Elle est le pays d'Europe qui compte le plus de camps de naturistes. Et ce naturisme de vacances tend à perdre ses principes, ses militants. Et la prédiction du gendarme de Saint-Tropez est en train de se réaliser. Ceux qui semblent gagner du terrain un peu partout, jusque dans les citadelles naturistes, c'est le nudisme balnéaire.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça avec Arnaud Bobéro. Bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas si je peux vous présenter comme un homme d'ordre, alors je ne vais pas donner tous vos titres universitaires, mais vous êtes un perpétuel adolescent. Scout, d'abord.
Je l'ai été, en tout cas.
Un livre sur le scoutisme. Rocker.
Je le suis toujours.
Vous étiez avec votre groupe à Paris pour participer à la fête de la musique aujourd'hui. Enfin, je veux insister sur vos titre et votre caractère sérieux, le naturisme, son histoire, c'est un livre aux presses universitaires de Rennes. C'était votre thèse d'histoire,
voilà, ma thèse d'histoire, oui.
Bobéro, et vous enseignez maintenant à l'université, allez, je le dis, Paris-Est, Créteil. Je disais, le naturisme, je ne fais que vous citer, insiste sur la nécessité de renforcer les défenses de l'organisme. Il y a chez tous les naturistes, dès le 19e siècle, quand le mouvement se constitue, n'a jamais été uni, quelque chose qui renforce, fédère, c'est l'idée que les maladies venues de l'extérieur peuvent être évitées si le corps suit l'hygiène qui est nécessaire.
Voilà, l'idée c'est que il y a dans le corps une force naturelle, la nature, qui agit pour lutter contre les maladies, pour maintenir le corps en vie et l'entretenir, et que les maladies sont le résultat de l'introduction dans le corps de substances néfastes ou la pollution du corps. C'est des idées qu'on a encore parfois aujourd'hui, hein, l'idée que l'alimentation laisse des déchets ou la transpiration, et qu'il faut entretenir dans le corps une force naturelle qui permet au corps de lutter, de se régénérer en permanence.
On va beaucoup parler de la France aujourd'hui, mais on voit quand même que le monde germanique est premier dans le naturisme. Quand on observe les médecins de l'Empire romain germanique, ou bien des simples paysans ou de bons curés de campagne qui lancent des cures naturelles,
oui,
au 19e.
Il y a quelque chose de très spécifique à l'histoire de la médecine du début du 19e siècle. Il y a une attente d'efficacité médicale à un moment où la médecine n'est pas encore en état de le donner. Et donc, on va souvent chercher chez des thérapeutes, qu'on appelle des thérapeutes empiriques, c'est-à-dire des gens qui mettent au point des méthodes de traitement, et puis ça marche. Alors, il y a ce paysan silésien, la Prisnitz, qui soigne les gens par des applications d'eau froide. Il les fait transpirer les gens en faisant scier du bois.
Et puis après, on rigole pas. Levé 4h du matin. Ouais.
On s'y débuche, et puis ensuite, on va s'appliquer de l'eau à 10 degrés pour justement stimuler l'énergie ou la force naturelle du corps pour lutter contre les maladies.
En Bavière, chez l'abbé Kneipp, c'est à peine moins dur.
Un petit peu quand même. On est 50 ans plus tard, la sensibilité a changé, la méthode de Kneipp est quand même plus douce. Lui, sa proposition, c'est de marcher pieds nus dans l'eau, dans l'herbe humide le matin, pour sentir l'eau de la rosée. Et c'est quelque chose quand même de plus doux. Alors sinon, de porter des vêtements amples pour aérer le corps, permettre à la transpiration de s'évacuer, etc.
Ces lieux de cure sont fort goûtés par la bonne société, parce que vous expliquez, Arnaud Bobéro, que les gens de bien ne détestent pas les excitants. La cure, c'est excitant, surtout quand ça ne dure qu'un moment. C'est en effet dans la bonne société que le naturisme commence.
Alors Prisnitz recrute sa clientèle, oui, dans l'aristocratie austro-hongroise du début du 19e siècle. L'abbé Kneipp en Bavière aussi reçoit des gens de la bonne société, effectivement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, je pense que les classes populaires vont chercher des médecines alternatives auprès des rebouteux, des soignants traditionnels. Et là, on a quelque chose qui est à la fois de la médecine alternative, mais qui s'adresse à un public plus cultivé et plus aisé socialement.
Alors on passe en France, comme je l'avais annoncé, soit le Paris de la Belle Époque, soit une pièce de Feydeau, typique du moment, qui s'intitule « Ne te promène donc pas toute nue », soit un héros, c'est Jacques Charon, député de son état, très comme il faut, et mécontent que sa femme, Clarisse, interprétée ici par Arlette Didier, se promène, non pas nue, mais fort peu vêtue.
Oh non, 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 non et non.
Ah ça, veux-tu me dire ce qui t'a pris?
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette manie? Tu as te promener toujours toute nue.
Mais ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour.
C'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque.
Ah, voilà. Voilà, dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calicot.
Quoi, des chemises en calicot? Qu'est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot?
Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam.
Allons bon, les voilà en madapolam à présent.
Eh ben merci. Qu'est-ce que diraient les gens?
Les gens, quels gens? Tu vas montrer ta chemise aux gens?
Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens. Voilà où tu en arrives.
Mais ne fais donc pas toujours dévier la conversation. Tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils.
C'est pour ça que tu me fais cette sortie?
Bah évidemment, c'est pour ça.
Oh bah vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi.
Quand tu trouves ça naturel.
Quelle importance a-t-il? Auguste est un enfant, si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit. Mais une mère, ça compte pas.
Il n'y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Tu te promenais devant ton fils en chemise transparente.
Ça, c'est un con. C'est mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. Et bien que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien à comprendre, à part les préjugés.
Ah oui, mais c'est tout, les préjugés, c'est tout.
Alors on va solliciter le texte, on va faire comme si Clarisse était une féministe naturiste. Il y a beaucoup de femmes qui défendent le naturisme. Et ce qu'elle porte, on va faire comme si c'était une chemise de fil de lin, telle qu'elle est commercialisée par la coopérative du curé Kneipp.
Voilà,
ça existe, ça?
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a des commerçants, enfin des gens qui ont monté des réseaux de vente par correspondance de vêtements qui sont qualifiés de vêtements naturistes, qui sont des chemises de lin amples, des sandales, voilà, des vêtements qui sont censés permettre justement au corps de s'aérer.
C'est mieux, dirait Clarisse, continuant à le faire jouer le rôle de la féministe naturiste, que le corset, le talon haut, la chaussures trop étroites.
Ben, il faut se souvenir de ce qu'est le vêtement, ce que sont les codes vestimentaires à la Belle Époque. On imagine bien, enfin, qu'on a tous en tête ces images des femmes qui sont vêtues du bout des poignets jusqu'au haut du cou et dont on a à peine quelques centimètres de peau qui apparaissent. Et puis surtout, le corps est toujours enserré, bien maintenu. Et donc, il y a ce discours de contestation qui émerge à la fin du 19e siècle. Et ce qui est intéressant dans cette pièce de Feydeau, c'est que on sent aussi que derrière, il y a le discours hygiéniste de façade, il faut aérer le corps, mais il n'est pas exclu qu'il y ait derrière aussi un discours de recherche du plaisir, c'est-à-dire que le désir de voir le corps un peu s'aérer, se montrer, se révéler.
Il y a du plaisir, dirait Clarisse, à faire sa gymnastique devant la fenêtre ouverte.
Devant la fenêtre ouverte. Alors, c'est d'un côté les recommandations des médecins hygiénistes et naturistes, hein, d'ouvrir la fenêtre et puis de respirer de grandes bouffées d'air frais pour justement développer la cage thoracique, etc. Et puis, là encore, stimuler les défenses naturelles du corps. Et certainement, le plaisir des gens qui font ça, de pouvoir aussi se débarrasser un peu de ses vêtements, des corsets, de tout ce qui enserre le corps.
À la coopérative du docteur Kneipp, du curé Kneipp, qui est animé par un industriel lyonnais en France, elle trouverait, Clarisse aussi, des baignoires adaptées, et puis des aliments tout à fait des spéciaux.
Du café de Malte, du pain avec des farines dites naturelles ou naturistes, des savons, des onguents, des baumes, tout un tas de produits, un peu comme on a aujourd'hui dans les réseaux de magasins bio, c'est-à-dire des produits qui sont associés à une hygiène de vie alternative.
C'est-à-dire que le naturisme va toujours avec une recherche d'une alimentation plus saine. Ça voilà. Va souvent avec le végétarisme.
Considéré en tout cas comme naturel, comme plus naturel.
Pas de tabac.
Pas de tabac, pas d'alcool. Et pour un certain nombre de naturistes, pas pour tous, mais donc pas de viande et un régime végétarien qui est considéré comme plus naturel.
On était dans la bonne société, vous parlez aussi beaucoup dans votre histoire du naturisme, paru aux presses universitaires de Rennes, Arnaud Bobéro, des milieux anarchistes qui expliquent qu'il faut se distinguer de l'ouvrier commun qui attrape la phtisie au zinc et qui, au lieu de lire, boit et fume. Enfin, il y a des saines lectures tout de même, par exemple celle d'Élisée Reclus, grand fondateur de l'anarchisme dans L'Homme et la Terre. Il observe que les hommes et les femmes nus de Polynésie étaient en meilleure santé que nous ne le sommes aujourd'hui.
Cherchons une barque. Ramer, nager, nu comme des vers, l'homme devrait autant que possible vivre nu, absorber sa santé par tous les pores, accoutumer ses yeux à la beauté des formes. Je tiens à reconquérir l'équilibre de ma jeunesse, équilibre que nous font perdre bottes, cravates, bretelles et chapeaux. Ah, cette sensation rafraîchissante du vent, conjuguée à l'eau, n'a rien d'infernal.
Reclus est particulièrement lu dans ses passages naturistes après 1894, quand la voie politique, la propagande par le fait, les attentats ont échoué et que les anarchistes sont marginalisés, qu'ils voient leur monde s'effondrer.
Alors, il y a d'abord toute une tradition de retour à la nature, enfin de discours sur le retour à la nature dans le monde anarchiste. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude d'opposer à l'ordre social, aux lois sociales, l'ordre de la nature et les lois de la nature. C'était un point d'attaque pour contester la société. Mais effectivement, après que les tentatives des attentats anarchistes aient complètement échoué et que le monde anarchiste ait été complètement déstructuré par la répression policière au milieu des années 1890, il y a une sorte de repli sur la recherche d'un mode de vie alternatif, un peu comme on verra dans la France des années 1970, après l'échec de mai 68, enfin du point de vue politique, un certain nombre de militants se tournaient vers des communautés, vers justement le retour à... enfin, les communautés néo-rurales, le retour à la vie naturelle ou la recherche de modes de vie alternatifs.
Il y a des communautés chez les anarchistes, on en dénombre une dizaine dans les 10 années qui précèdent la Grande Guerre, mais elles ne vont pas très loin. Il y a aussi un petit groupe de Montmartrois, assez étonnant.
Les naturiens, oui.
Autour d'Eugène Gravel.
Voilà, d'un dessinateur qui propose une sorte de naturisme préhistorique, de retour à la vie primitive.
Et il fait des causeries, puis les causeries alternent avec des chansons. Non, ce qui est tout à fait étonnant, qui va surprendre nos auditeurs, c'est que les anarchistes de la bande à Bono, alors là, on est juste à la veille de la guerre de 14, sont à certains égards des naturiens.
Oui, ils sont tout à fait intégrés à ce milieu d'anarchistes naturistes. Donc eux-mêmes sont abstinents d'alcool, de tabac, ils sont végétariens. Ils pratiquent l'hygiène naturiste et la gymnastique nue au grand air chaque matin, etc. Et donc même après l'arrestation, ceux qui n'ont pas été tués au cours de l'arrestation, mais ceux qui sont emprisonnés dans la cellule de prison, ils continuent justement à avoir cette hygiène de vie très ascétique qui est associée pour eux justement à l'ordre de la nature et qui repose sur la conviction que les modes de vie dominants dans la société sont erronés.
Et à se briquer à l'eau froide le matin, voilà. J'allais dire, jusqu'au sang. On retrouve des anarchistes, on va finir pour cette période d'avant 14 en évoquant Monte Verita, dans ce haut lieu qui s'appelle Monte Verita. Alors là, on est de nouveau hors des frontières françaises, à la limite de l'Italie et de la Suisse, du côté suisse, dans le Tessin, un industriel belge qui vit avec une pianiste d'origine monténégrine a décidé de construire dans un paysage idyllique un sanatorium.
Et autour de ce sanatorium, donc, se forme petit à petit une sorte de communauté. On a beaucoup ça, justement, dans la mouvance naturiste, des lieux qui sont, au départ, des lieux de cure, donc, qui vont accueillir des curistes. Les gens viennent pour des séjours plus ou moins longs, parfois une saison, parfois une année ou plusieurs années. Et on a comme ça des communautés alternatives qui se forment.
En principe, sans tabac ni viande, et avec quelques anarchistes, je l'ai dit, et même des prolétaires qui travaillent pour la communauté afin de payer leur cure.
La danse expressionniste allemande voit-elle aussi le jour sur le Monte Verita. À la fin des années 70, une exposition ravive l'aura mythique des lieux. Pour Harald Zeemann, la montagne est un triangle des Bermudes de l'esprit.
Le Monte Verita permet de récapituler l'histoire de la pensée alternative, qui pour moi est la pensée tout court, de l'Europe centrale. Des anarchistes aux théosophes, en passant par les adeptes du naturisme, les premiers détracteurs de Freud ou de la théorie sexuelle freudienne, jusqu'aux artistes, aux gens de lettres, et à tous les utopistes et les farfelus.
Parmi les gens de lettres, le futur Nobel de littérature, Hermann Hesse, a fréquenté Monte Verita pour soigner son alcoolisme, sa dépression, ses idées suicidaires. Vous parliez, Arnaud Bobéro, des années 1970. Hermann Hesse a eu beaucoup d'influence à cette époque-là. Il recommandait de laisser le vent se détacher et nous transformer. Et nous conduire à notre vraie demeure. Il recommandait d'écouter La Terre, une chanson Nature Boy qu'on retrouve souvent dans les milieux du jazz. Nat King Cole est ici, Ella Fitzgerald est tout à fait dans cette tonalité.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far. Over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le naturisme avec Arnaud Bobéro qui a présenté dans son histoire du naturisme aux presses universitaires de Rennes ce courant comme ayant d'abord été une thérapie, une philosophie, philosophie du corps d'ailleurs, plus que de la nature. Dans la période d'après la guerre de 14, cet aspect perdurera avec même des flirts avec l'ésotérisme chez certains.
Chez certains, oui.
Je ne vais pas employer de grands mots, mais théosophie, astrologie peuvent se conjuguer avec le naturisme des années 20 et 30 chez un personnage qui s'appelle De Marquette et un étrange médecin qui s'appelle le docteur Carton. Mais ce qui est quand même beaucoup plus frappant, c'est l'association nouvelle du naturisme avec des centres de loisirs, des lieux de loisirs.
Oui, avec des endroits où les gens vont se retrouver. Alors, parce que le naturisme est associé à la pratique du dévêtissement, que dans la France de l'entre-deux-guerres, se dévêtir est encore quelque chose qui peut exposer les gens aux foudres de la loi. Donc, on va créer des clubs ou des centres fermés pour que les amateurs de naturisme ou de ce qu'on commence à appeler aussi le nudisme ou alors par des périphrases de la gymnosophie puissent se retrouver, se mettre nus ensemble ou se déshabiller, parfois pas intégralement, mais en tout cas se dévêtir et profiter ensemble des bienfaits du soleil, de l'eau fraîche, etc.
Alors, remerciements éternels aux frères d'Urville,
voilà.
Médecins tous les deux, croix de guerre tous les deux, et qui cherchent au fond à constituer un monde idéal tel qu'ils en rêvaient peut-être pendant le conflit.
Une sorte de cité utopique, oui. Alors, ils commencent d'abord en banlieue parisienne, sur l'île de Médan, puis sur l'île du Levant, dans le
Alors, Nord. Avant le Levant, ailleurs. Tout près, en effet, de Médan. D'ailleurs, Zola avait construit un chalet sur cette île, un lieu qui s'intitule Physiopolis à partir de 1928-1929. Un reportage de 1996, Philippe Bigot, Frédéric Andrilly, avec de très très vieux témoins.
C'est une régulière, tante Yvonne. Tous les samedis matins, elle quitte son 20e arrondissement, direction Gare Saint-Lazare.
Ça fait 50 ans que je prends le train. Il n'était pas encore électrifié.
À 30 km de Paris et à 20 minutes de train, Villennes-sur-Seine. Après le métropolitain, après le chemin de fer, quand Yvonne finit sa matinée en bateau.
C'est toujours plaisant, hein. C'est toujours plaisant. On a l'impression qu'on est au bord de la mer ou qu'on est, je sais pas, en croisière. Ça rappelle le temps où on faisait du canoë et kayak. On n'en fait plus parce qu'on n'a plus les muscles pour les faire. Ça, on faisait tout le tour de l'île à ce moment-là, en canoë et kayak. Ça fait un bon bout de chemin, hein, parce que l'île se termine loin là-bas.
J'ai connu mon mari ici, qui était un sportif. On n'arrêtait pas de la journée. Tous les sports, on les pratiquait. Ici, on était tous en slip. Et on était là pour faire du sport, pour vivre une vie naturiste. Donc le reste, il pouvait aussi bien y avoir des employés, des ouvriers, que des cadres. Tout ça, une fois que vous êtes déshabillé, ça ne se voit plus tout ça.
Dites-vous bien qu'il y avait des visiteurs qui venaient le dimanche. Ils venaient le dimanche parce que nous appelions naturistes. Et ils pensaient qu'ils allaient, comme on dit, se rincer l'œil. Ben, puis ils nous voyaient en bikini. Mais ils n'avaient jamais vu ça. Pourquoi il y a 50 ans, ils n'avaient jamais vu ça? Dites-vous bien qu'il y avait un seul magasin dans Paris qui vendait des bikinis. Il y avait trois couleurs et une seule forme. Ça paraît dérisoire aujourd'hui avec la société de consommation.
Et le mot bikini n'existait pas. Je ne sais pas si celui de string existait, mais il n'y avait pas de string, il y avait des slips.
Oui.
Des vêtements n'égale pas nudisme au début
en tout cas
de
dans
l'expérience
le...
de Physiopolis ou aussi bien de celle d'Héliopolis.
Voilà, dans les camps des frères d'Urville. Ils avaient probablement commis l'erreur de demander à la préfecture de police l'autorisation de pratiquer la nudité collective et on leur avait dit évidemment non et qu'on les garderait à l'œil. Mais à la même époque, donc Marcel Quiné de Mongeau fonde des centres naturistes où là, par contre, on pratique la nudité intégrale.
Donc 13h52, la nudité intégrale apparaît enfin dans cette émission sur le naturisme. Et vous diriez, à la fin des années 20.
À la fin des années 20, au début des années 30, il y a quelques centres qui existent encore aujourd'hui, qui date de cette époque, le Club Gymnique de France à Villecresne. Donc,
vous avez fait une conférence après votre thèse.
Il y a quelques années, voilà. Et donc, un des premiers lieux où on pratique la nudité intégrale, collective, donc dès 1930. Oui.
La confrontation n'est pas facile. Quand plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, Albert Lecoq ouvrira Montalivet, je vois que le maire de Montalivet a été peut-être conduit au suicide par les tensions nées de l'installation du centre héliomarin naturiste, voire nudiste, de monsieur Lecoq. C'est un vrai feuilleton d'ailleurs, les confrontations
oui, avec les autorités.
Du nudisme avec les autorités.
Oui, mais finalement, une relative tolérance s'est installée petit à petit.
Et oui, mais enfin, dans les années 60, 70, et il y a encore des rebonds, ça a été difficile.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, l'histoire du naturisme, c'est en parallèle aussi l'histoire de l'évolution des codes de pudeur et du rapport justement de la société globale à la nudité. C'est dans ce contexte là que c'est intéressant de l'étudier.
Je vous propose, et vous allez pouvoir réagir, un dernier reportage. Nous sommes avec l'Association pour la promotion du naturisme en liberté, APNEL, que suivait Hubert Prolongeau pour France Culture il y a quelques années. Cet APNEL organise des randos nus. Et évidemment, quand la rando nue tombe sur des textiles en chemin.
Tout le monde se prépare, se déshabille, se met, comme on dit généralement, en tenue de peau, voilà, ou en tenue naturelle, ou en tenue de naissance, comme disent les Anglais.
Tenue de naissance, voilà. J'aime bien ça.
Et comme on dit en espagnol, oui. En cuir.
En cuir.
En cueros, voilà, on dit en espagnol.
Il y a des gens qui arrivent.
Il y a des gens qui arrivent.
Moi, je m'habille pas.
Oui, non, mais bien sûr.
Donc là, on a des textiles qui arrivent. Bonjour. Est-ce que notre nudité vous gêne? D'accord, donc on va mettre nos... Voilà. Pas de problème. Là, on se couvre parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé. Il a peur que ses enfants soient choqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ne sont jamais choqués par la nudité. On n'a jamais vu des enfants choqués. Mais c'est les parents qui pensent que ça peut effectivement les traumatiser.
Pour nous, c'est pas gênant, mais c'est surtout pour les enfants. Faut pas que, si c'est possible que lorsqu'on passe, on va aller un peu plus loin, que vous mettiez sur le côté afin que ça ne les dérange pas. Nous, après, ça ne nous dérange pas, mais c'est vraiment pour les enfants, pour pas qu'ils soient choqués ou quoi que ce soit.
Irvine, vous refusez de vous rhabiller quand ce monsieur et les enfants passent. Pourquoi ?
Parce que la liberté, elle est pour tout le monde. Je ne cause aucun tort. Ils ont une vision qu'ils criminalisent, parce qu'on en vient à ça, hein, à criminaliser le côté naturel de l'être humain. L'être humain est ce qu'il est par nature. Il n'y a aucune raison que je me sente criminel, moi, parce qu'eux ne le voient pas bien.
Arnaud Bobéro,
C'est une belle illustration de notre société contemporaine, la recherche du compromis permanent entre le désir individuel et les normes sociales.
Les accommodements raisonnables voilà. Avec les nudistes.
Exactement.
Oui, il faudrait qu'Alain Juppé, qui aime cette formule québécoise, y pense aussi. Le nudisme, ça peut provoquer la gêne parce que ça provoque la comparaison. La comparaison entre ceux qui sont habillés et ceux qui ne sont pas habillés, et la comparaison entre ceux qui ne sont pas habillés.
Oui, c'est aussi quelque chose d'éminemment culturel, c'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels la nudité publique ne gêne pas du tout, dans certaines régions allemandes ou en Scandinavie, et c'est très lié aux habitudes, aux traditions d'exposition du corps. Voilà. Alors après, il y a aussi quelque chose que défendent les naturistes et dont on peut... auquel on peut accorder un certain crédit, c'est qu'il y a chez eux une grande tolérance à l'égard des corps tels qu'ils sont, aussi dans leurs différences.
Parce que là, quand vous avez publié votre livre « Histoire du naturisme pur », Presse universitaire de Rennes, certains étaient inquiets chez les naturistes, il va nous resservir le plat de l'eugénisme, parce qu'il y a eu un courant eugéniste chez les naturistes allemands, un courant de sélection. Mm-hmm. Et ça, vous dites qu'en France, il n'a jamais été important ce courant.
En tout cas, c'est une question ça n'a jamais été lié à l'extrême droite ou à une orientation politique particulière. Et le mouvement naturiste en France, il est majoritairement de tradition libérale, humaniste.
Donc, quand vous allez faire une conférence dans un camp de naturistes, vous observez que passent très bien les difficultés physiques des uns et des autres.
Oui, et que ce discours que tiennent les naturistes sur le fait que les corps handicapés, les corps mutilés, les corps différents sont tout à fait acceptés et beaucoup plus que dans les plages textiles. J'ai pu faire l'expérience de la véracité, en tout cas le contexte dans lequel j'étais accueilli, j'ai vu que c'était vrai et que les gens étaient d'une grande tolérance les uns à l'égard des autres du point de vue de leur apparence physique.
Mais c'est une recherche de la beauté quand même, le naturisme.
C'est un des aspects du naturisme, mais il est divers, c'est aussi de ce point de vue-là. Et il y a aussi, là encore, je crois, des compromis entre des gens qui pratiquent la culture du corps et puis d'autres qui sont au contraire dans l'idée du plaisir individuel.
Merci à vous Arnaud Bevero, histoire du naturisme. On peut faire du naturisme jusqu'au milieu de la neige et en plein hiver et en montagne. C'est une recommandation pour Mathieu Vidard qui est à... Bonjour Mathieu.
Au-dessus de Chamonix, Jean.
Voilà.
On n'a croisé aucun naturiste, hein. Tout le monde textile aujourd'hui pour l'émission.
La biodiversité dans tous ses états. L'équipe de la Marche de l'Histoire, Jacques Sigal, Dimitri Gronoff, la préparation, c'était Frédéric Martin, Franck Olivard, Ninka Negulesco et Lola Jordan.